priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Vendredi dernier, le président Nicolas Sarkozy a annoncé les principales mesures du plan de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative entraîne une détérioration progressive des fonctions cognitives, notamment de la mémoire. Elle frappe 24 millions de personnes à travers le monde. Ce plan français prévoit l'engagement d'1,6 milliard d'euros de plus sur 5 ans pour accélérer la recherche et améliorer la prise en charge des malades. Le professeur Claude Jandel a participé à l'élaboration du rapport qui a inspiré ce plan gouvernemental Alzheimer 2008-2012. Il est aujourd'hui mon invité, le professeur Jandel, est chef du pôle de gérontologie clinique au CHU de Montpellier, dans le sud de la France. Il est également chargé de mission auprès des ministères de la Santé et des Solidarités, filières gériatriques, soins palliatifs et Alzheimer. Professeur Claude Jandel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct des studios de France Bleu Hérault à Montpellier. Quelles sont les grandes lignes de ce plan Alzheimer ?
C'est un vaste plan qui vient compléter les deux plans précédents et qui a comme finalité d'aborder aussi bien l'amélioration des services aux personnes et à leurs aidants naturels, donc le volet soins, on va dire. Le volet formation, qui est, on y reviendra, capital, évidemment, il faut des personnels qualifiés, et le volet recherche, car il est impératif également que nous avancions dans ce domaine de manière à améliorer justement le soin aux personnes atteintes de cette maladie.
Est-ce que ce plan est un véritable plus ? Est-ce qu'il y a une véritable nouveauté ? Ou finalement, je dirais que c'est un plan de plus ?
Non, il vient compléter les précédents plans et notamment il abonde au plan des financements un grand nombre de mesures qui n'avaient pas été ou envisagées précédemment ou qui étaient insuffisamment financées. Donc il va renforcer un certain nombre de ces mesures déjà mises en œuvre, car on n'a pas attendu ce plan évidemment
pour faire les choses,
mais il faut renforcer certaines mesures, notamment l'amélioration du diagnostic impose par exemple de renforcer certaines consultations mémoire qui ont une activité forte. Et il y a des mesures qui n'avaient pas été envisagées précédemment, qui vont apparaître là comme de nouvelles mesures tout à fait importantes et qui vont apporter indiscutablement une avancée.
Alors je vous propose d'écouter le témoignage de Jacques qui a 82 ans, sa femme Christiane en a 80. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, diagnostiquée il y a 8 ans. Des propos recueillis par Marie Bagé.
Un jour par exemple, elle conduisait encore, elle est partie pas très loin de chez nous en voiture, et puis elle est rentrée par l'autobus en disant « je ne sais pas où j'ai mis la voiture ». Mais ça ne l'a pas inquiétée, mais pas du tout. Et la police nous a retrouvé la voiture 2 mois après. Mais ça ne l'a jamais inquiétée, elle n'a jamais dit mais c'est embêtant ». Non, ça glissait.
Et vous personnellement, alors comment avez-vous vécu l'annonce de ce diagnostic ?
C'est drôle, hein, parce que ça a été à la fois un soulagement et le coup de massue. Le soulagement, parce que enfin on savait ce que c'était. Alors que avant le diagnostic, on se disait qu'est-ce qu'il peut y avoir. Puis là, ça c'est une maladie que l'on connaît. Enfin, j'ai commencé à chercher un petit peu et c'est là où je me suis aperçu que de toute façon ça devenait la catastrophe. Que de toute façon il n'y avait plus rien à espérer.
Et comment avez-vous vécu ces 8 années avec elle au quotidien ?
Au début, on essayait de vivre. Et puis, le plus difficile, c'est que petit à petit, il a fallu admettre la situation. Il a fallu admettre qu'elle était malade, que ce qu'elle disait n'avait aucune importance, il ne fallait en tirer aucune importance, et que s'il fallait répéter 10 fois la même chose, il fallait répéter 10 fois la même chose. Il fallait s'armer de patience et accepter toutes les situations les plus folles qui pouvaient se présenter. Je dis que moi que j'ai beaucoup beaucoup de chance parce qu'elle est douce, elle accepte la situation, elle n'est pas fugueuse et c'est quand même assez extraordinaire, surtout que, vous savez, quand cette maladie arrive, elle touche une personne, la malade, mais elle touche la famille aussi, enfin la famille, l'environnement. On dit que la maladie éloigne. Les gens ont peur de cette maladie, Et moi, j'ai eu la chance qu'au contraire, tout le monde s'est resserré. Tout le monde vient, s'en occupe, vient la chercher, vient la promener. Ça, c'est une de mes chances encore. Je vous dis, j'ai des chances malgré tout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière a été une année très dure, pas pour elle. Elle continue doucement, mais moi, j'étais complètement vidé, complètement, j'y arrivais plus, c'était plus possible. Alors, j'en ai parlé avec les enfants et elle étant rentrée dans une institution pour personnes dépendantes depuis un mois. Bon, j'en suis pas encore remis, bien entendu, parce que ça a été une décision épouvantable à prendre. Maintenant, elle est prise. J'ai la chance, c'est à 10 minutes à pied de la maison, donc je vais la voir souvent. Et je sors même. Hier, on a été se promener au parc Montsouris. Je l'emmène chez sa coiffeuse habituelle. En fait, vous voyez, on continue à vivre. Mais c'est sur les accompagnants, sur les aidants, c'est un poids très, très, très lourd. Je sais que pour moi, il n'y a plus rien à espérer. C'est le drame aussi de ça. Il n'y a plus rien à espérer. Il faut essayer qu'elle soit le moins malheureux possible. C'est difficile. On ne bâtit plus l'avenir. On bâtit le lendemain et encore, mais ça ne va jamais plus loin. Il faut se baser et se contenter du présent.
Professeur Claude Jandel, cette maladie d'Alzheimer, c'est vraiment très dur pour l'entourage, on l'entend avec le témoignage de Jacques.
Effectivement, ce témoignage est extrêmement riche. D'abord, il met en évidence le fait que les familles veulent savoir, elles veulent connaître le diagnostic, même si ce diagnostic est fort en valeur pronostique,
et lourd,
parce qu'on s'attend effectivement à vivre des jours très difficiles. Pourtant, il faut effectivement, et ça c'est une avancée déjà des dernières années, à savoir qu'on dit les choses maintenant, on prend du temps, il faut en prendre pour annoncer ce diagnostic, le faire de manière tout à fait adaptée. Évidemment, il faut le faire en adaptant la démarche à l'aidant, car aucune situation n'est semblable.
Mais c'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer. On met souvent du temps à poser, finalement, le terme de maladie d'Alzheimer.
Dans les formes débutantes, effectivement, il faut prendre du temps parce qu'on n'a pas le droit de se tromper, évidemment. Et par ailleurs, il n'y a pas urgence non plus à faire un tel diagnostic. On peut se donner plusieurs semaines, voire quelques mois. Dans les formes plus évoluées, évidemment, le diagnostic est plus facile à porter. Dans la mesure où on fait en sorte d'éviter justement ces diagnostics tardifs, il faut améliorer ce diagnostic dans les formes initiales et ça implique une organisation qui, d'une part, doit situer le médecin traitant dans un rôle tout à fait important. Le médecin traitant doit déjà, lui, émettre l'hypothèse et pour la confirmer, orienter le patient vers un centre, une consultation mémoire ou une consultation spécialisée, de manière à ce qu'on puisse procéder à une démarche diagnostique qui impose notamment une évaluation neuropsychologique tout à fait précise et qui est longue.
Et c'est ce diagnostic qui permettra d'ailleurs une bonne prise en charge. Une grande partie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en France, en fait, ne sont pas diagnostiquées.
Effectivement, encore que ça a progressé nettement au cours des dernières années, grâce justement à la mise en place de ce maillage et des consultations mémoire. Ce sur quoi je voudrais insister concernant ce témoignage, c'est également, une fois le diagnostic annoncé, c'est l'importance d'expliquer l'évolution, l'histoire naturelle de la maladie et les différents événements qui peuvent survenir au cours de son évolution. Il est impératif que la famille en soit informée. Il faut accompagner finalement l'aidant en le préparant à cette évolution difficile. Et c'est ainsi armé d'informations qu'il sera mieux à même de finalement de non seulement de remplir son rôle, mais également ça le rassurera quelque part.
Et ça lui permet aussi de comprendre qu'au bout d'un moment, comme ce qui s'est passé pour Jacques, finalement, ce n'était plus possible que sa femme reste à la maison.
Absolument. Il est important que, et monsieur l'a très bien dit, c'est une maladie qui touche finalement un malade, mais également son environnement, et notamment l'aidant, le conjoint très souvent, ce qui est le cas dans le témoignage présenté. L'aidant naturel, l'aidant qui vit avec la personne malade, est un deuxième malade potentiel. On a montré par différents travaux que le stress chronique qui s'exerce sur lui, en raison de la charge, le fardeau, on parle de fardeau, vous voyez, le terme est fort, lié en particulier à la présence de troubles du comportement. Les troubles du comportement qui peuvent émailler l'évolution de la maladie vont jouer un rôle important sur ce fardeau. Et il est donc important d'avoir un regard particulier sur l'état de santé de l'aidant, car c'est finalement lui qui conditionne la possibilité pour le malade de rester dans son environnement habituel, c'est-à-dire son domicile.
Priorité santé, Claire Hédon.
Aujourd'hui, nous parlons du nouveau plan Alzheimer avec le professeur Claude Jandel, qui est chef du pôle de gérontologie clinique au CHU de Montpellier. Professeur Claude Jandel, un dernier mot sur cette question des aidants. Ce plan Alzheimer, justement, prévoit quelque chose pour aider ces aidants?
Écoutez, c'est très significatif. C'est la première mesure pour montrer la sensibilité donc des pouvoirs publics à cette problématique. C'est la première mesure, apporter un soutien accru aux aidants par la mise en place notamment de solutions de répit, ce qu'on appelle les accueils de jour thérapeutiques, qui permettent à la fois à l'aidant de finalement du répit, mais également des lieux de parole. Des groupes de parole sont souvent mis en place. Et pour le patient atteint de maladie, c'est également un lieu de stimulation cognitive, de manière à faire en sorte qu'il garde au plus longtemps possible ses capacités, les capacités restantes, tant au plan fonctionnel qu'au plan cognitif.
Alors un autre point qui est prévu dans ce plan Alzheimer, c'est la formation du personnel. Laurence Théo s'est rendue au Magnola, qui est un hôpital gériatrique privé à Longjumeau, en banlieue parisienne. Elle a rencontré Isabelle, une des infirmières, en train de parler à une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer.
On est venu vous voir, il y a votre mari qui est là.
Ah oui.
Oui, est-ce qu'il vous a donné un aussi bon goûter qu'avant-hier? Il vous a donné un goûter? Des fruits? Vous vous souvenez? Peut-être des fraises. Il vous a donné des fraises?
Elle fait des petites mimiques.
Oui, elle fait des mimiques.
Ouais.
Mais elle ne répond pas.
Elle ne répond pas, mais elle me répond avec les mains, regardez. Elle me caresse les mains.
Isabelle, c'est important le toucher. Hein. Là, on voit que vous entrez en contact avec cette dame en lui caressant les mains.
En lui caressant les mains, parce que c'est un canal de communication qui est extrêmement, extrêmement important. Là, madame ne me regarde pas, elle a les yeux fermés, donc on n'a pas de communication par le regard. Donc je lui parle et là, vous voyez, elle joue avec ma main. Donc il s'est passé quelque chose entre nous, par ce canal-là, par le toucher, on peut faire passer toutes les sensations, en fait. Ben là, j'ai la sensation qu'elle est contente que on soit là et que je la touche. Elle sourit, vous voyez, elle est apaisée, elle sourit, elle me caresse les doigts avec son pouce. Je peux pas enlever ma main parce que visiblement, elle est contente de la voir. Là, elle sourit encore et c'est un moment qui est un moment agréable partagé.
Evelyne Gossin, c'est la directrice de cet hôpital. Elle insiste sur la nécessité de mieux former le personnel.
Donner envie de travailler à des professionnels, je pense qu'il y a deux conditions. Déjà, il faut que le travail qu'ils sont en train de faire ait un sens aussi pour la société. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que, tant que la vieillesse sera considérée comme une fatalité, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui est négatif, pour les soignants, c'est pas encourageant. Alors que si on est capable, effectivement, au niveau de la société, de dire que la vieillesse, eh bien, on peut tout à fait y travailler pour qu'elle soit comment dire, une étape de sa vie aussi très intéressante. C'est-à-dire les soignants peuvent tout à fait participer à faire en sorte que la dépendance arrive le plus tard possible. Et ça, je pense qu'ils ont un grand rôle à jouer, et ça, c'est valorisant. Une fois qu'une personne est dépendante, les soignants ont un rôle à jouer de façon à ce que cette personne âgée vive avec sa dépendance sans être exclue du monde. Ça, c'est très valorisant aussi pour les soignants. Et c'est vrai que cette méthode, qui fait appel au toucher, qui fait appel à une méthode relationnelle, hein, qui parler, toucher, écouter, donne du sens puisque les patients sont mieux, parce qu'ils sont vraiment mieux. Bien sûr, on ne va pas guérir une personne Alzheimer, hein, mais ils sont sereins, ils retrouvent leur dignité. Et pour les soignants, ça, c'est un succès. Et tout ce qui est succès dans sa pratique professionnelle est valorisant. Ils vont beaucoup mieux, ils ont envie de rester. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que au bout de, maintenant ça va faire 3 ans que nous appliquons cette formation, le turnover dans cette unité est passé de 30% à 2% et l'absentéisme est passé, aujourd'hui j'ai à peine 2-3% d'absentéisme. Le personnel est valorisé. Ça a donné du sens au métier en gériatrie. Parce que au lieu d'être dans la fatalité, de dire bon, ben, ils sont là, faut les lever, faut leur donner à manger, il faut faire la toilette et après il faut les coucher, là, toute la journée on leur parle. Toute la journée le soignant guette les améliorations. Je trouve qu'au niveau de la gériatrie, l'avenir, si on doit agir sur un levier en gériatrie, c'est bien en introduisant des comportements éthiques mais permanents. C'est-à-dire, c'est quoi un comportement éthique? C'est une démarche qualité, c'est surtout considérer la personne que l'on soigne comme un être humain qui est aussi acteur de sa vie. On va essayer de savoir qu'est-ce qu'il veut. Le considérer, tout simplement, le regarder.
Alors, professeur Claude Jandel, qu'est-ce que le plan Alzheimer prévoit pour que le personnel soit mieux formé et valorisé, reconnu dans son travail?
D'abord, je partage tout à fait les propos de Mme Gossens. Il est capital, car c'est un secteur, le secteur de la gériatrie, gérontologie, qui va forcément, de par la démographie, croître. On a impérativement besoin de professionnels, mais de professionnels qualifiés, car c'est la qualification du personnel qui le valorise et lui donne du sens au niveau de la place qu'il occupe dans un établissement. Et on a bien montré que les établissements, et c'est l'exemple de cet établissement, qui ont su organiser, qui ont un encadrement, une direction, qui a ses exigences, eh bien, gardent leur personnel et le turnover...
Et alors, qu'est-ce que prévoit le plan pour aider ceux qui n'arrivent pas encore à former bien leur personnel?
Le plan prévoit un certain nombre de formations qualifiantes et de nouveaux métiers, notamment d'assistants de gérontologie, qui sont des métiers qui aujourd'hui n'existent pas réellement. La formation initiale du personnel n'est pas suffisamment axée vers ces maladies qui sont à l'origine de dépendance dans la maladie d'Alzheimer. Donc il y a une approche qui vise à modifier les maquettes de formation initiale, hein, de ces métiers qu'on appelle de métiers niveau 5, qui sont les métiers d'aide à la personne notamment, de manière à ce que effectivement ces professionnels arrivent en situation avec un prérequis adapté et qu'ainsi ils puissent s'intégrer plus facilement dans les équipes donc de soins.
Professeur Claude Jandel, juste en un mot pour terminer, qu'est-ce que ce plan prévoit pour la recherche, qui est l'autre point très très important?
Alors, beaucoup de mesures sur la recherche. D'abord, c'est une recherche translationnelle, c'est-à-dire qu'on vise à fédérer toutes les potentialités de la recherche française, aussi bien dans le champ de la génomique, de la protéomique que de l'immunologie. Et on va jusqu'à une recherche clinique en développant, en renforçant les mesures qui sont dévolues à la recherche clinique et à la recherche soignante. Il faut aussi que dans les établissements de type hébergement pour personnes âgées dépendantes, on puisse réaliser une recherche qui est une recherche soignante, qui valorisera d'ailleurs elle aussi le personnel qui œuvre dans ces établissements.
Professeur Claude Jandel, merci. Merci également à l'équipe technique de France Bleu Héros qui nous a permis d'établir cette liaison avec Montpellier. Demain, nous parlerons des addictions, drogue, alcool, boulimie, comment s'en sortir, quels sont les derniers traitements, peut-on prévenir l'apparition de ces troubles et comment. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions, soit par mail à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 13 16. Et surtout, n'oubliez pas de mentionner votre numéro de téléphone. Au revoir à tous et à demain.